vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Afrique Matin. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité de reportage sur le continent. Il est 3h30 en temps universel, 6h30 à Moroni.
Afrique Soir sur RFI, Pierre Boudias.
Et il y a 50 ans, les Comores disaient oui à l'indépendance, une émancipation entachée par le refus de l'île de Mayotte de quitter le giron français. Un demi-siècle plus tard, le gouvernement réclame toujours la réunification complète de l'archipel. Suite et fin de la tournée africaine d'Emmanuel Macron dans la Corne de l'Afrique, le président français était à Addis Abeba hier pour rencontrer le premier ministre éthiopien, l'occasion d'évoquer le contentieux avec la Somalie et la guerre au Soudan. Il n'y aura pas de négociation entre Kinshasa et les rebelles du M23, prise de position réitérée en début de week-end par le président Félix Tshisekedi. Problème, le Rwanda conditionne toujours son retrait de l'Est de la RDC à l'organisation de ses pourparlers. Et puis les pays pauvres, toujours plus pauvres, selon la Banque mondiale. La mesure du patrimoine en débat à Madagascar et la fin des éliminatoires du Tchad 2025, c'est à retrouver dans ce journal. Il y a un demi-siècle, les Comores prenaient leur indépendance le 22 décembre 1974. Louis l'emportait lors du référendum organisé pour se détacher de la France. L'emportait presque partout puisque l'île de Mayotte faisait le choix de lier son destin à Paris. Problème, le protocole de ce référendum ne prévoyait pas de décompter les résultats île-Paris. Et depuis, Moroni ne cesse de revendiquer la comorianité du territoire devenu le 101e département français en 2009. Le débat sur son appartenance suscite depuis un vif intérêt, reste une question de souveraineté, d'histoire et d'identité. Correspondance Abdallah Mzenbaba.
À proximité de la place de l'indépendance à Moroni, un panneau affiche clairement « Mayotte est comorienne et le restera à jamais ». Pour Houmed Msédié, conseiller politique du président Azali Assoumani, les Comores ne vont jamais transiger sur cette revendication.
Mayotte est toujours comorienne en nous fondant sur trois principes. Le premier, c'est que nous sommes un seul peuple, c'est une seule nation. Deuxièmement, par respect aux accords de juin 1973 qui préconisait l'accession des Comores dans son intégralité territoriale. Le troisième principe, c'est le principe qui émane des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, Mayotte est comorienne.
Maître Atiki Youssouf, membre du comité maoré qui milite pour le retour de Mayotte, affirme que l'île est comorienne en raison de son histoire et de sa culture commune et que cela constitue un fait intangible.
L'acte de naissance de notre jeune nation n'a jamais dit que les Comores sont composés de trois îles pour que l'on revendique une quatrième qui n'est pas à nous. Notre revendication est que l'indépendance de notre territoire soit achevée et que le gouvernement comorien puisse librement exercer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. C'est une question d'histoire.
Pour tout Comorien, défendre Mayotte, c'est rappeler que les frontières et la politique ne peuvent effacer des siècles d'histoire commune, de liens familiaux et une identité culturelle qui résiste au temps et aux divisions coloniales. Abdallah Mzenbaba, Moroni.
Une date anniversaire alors que l'île de Mayotte peine toujours à se remettre du passage du cyclone Chido. Il y a un peu plus d'une semaine, le ministre français des missionnaires de l'Intérieur affirme que 90% de la population sera reliée à l'eau courante d'ici ce soir. Bruno Retailleau, selon qui le pont aérien depuis la Réunion a atteint sa pleine capacité avec 50 tonnes d'eau et de denrées qui arrivent chaque jour sur l'archipel. Le bilan, toujours largement provisoire et sous-évalué, fait état de 35 morts et 78 blessés. Un deuil national sera organisé demain. L'île de l'océan Indien, où a débuté, il y a trois jours, une mini-tournée du président français. Il était à Djibouti vendredi. Emmanuel Macron a ensuite fait étape hier en Éthiopie. Il a notamment rencontré le premier ministre Abiy Ahmed, dont le pays enclavé tente ces dernières années d'obtenir un accès à la mer. Une demande légitime, selon le chef d'État français, qui a salué un récent accord trouvé avec la Somalie sur ce dossier régional sensible. Précision de notre envoyé spécial, Pierre Firsion.
C'est un objectif central pour l'Éthiopie. Le pays cherche à obtenir un accès à la mer Rouge, un sujet qui avait généré de fortes tensions avec la Somalie voisine lorsqu'en janvier, Addis Abeba a signé un protocole d'accord avec la région séparatiste du Somaliland pour lui louer 20 km de côte. Un projet d'accès à la mer sur lequel le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a demandé hier l'aide de la France.
L'Éthiopie a une population de 130 millions d'habitants. L'économie croît de manière considérable. Et pour cela, c'est un pays qui aura besoin d'accès à la mer, de manière paisible, diplomatique, en collaborant avec des pays frères comme la France.
Emmanuel Macron s'est dit prêt à mettre de l'huile dans les rouages, dans ce dossier extrêmement sensible. Le président français jugeant ce projet légitime.
Est-ce que le Premier ministre a dit sur l'accès à la mer, la nécessité pour l'Éthiopie de diversifier ses accès, d'avoir la maîtrise de son destin dans un environnement régional ô combien difficile est une demande légitime. Et la France souhaite, le rôle qu'elle peut jouer, et beaucoup d'humilité, eh bien aider à ce processus de diversification par un dialogue responsable, apaisé, respectueux du droit international.
Le 11 décembre dernier, sous l'égide de la Turquie, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud se sont mis d'accord pour permettre à l'Éthiopie d'obtenir un accès à la mer sans que cela ne heurte Mogadiscio. Pierre Firsio, Addis Abeba, RFI.
Et ce déplacement dans la capitale éthiopienne a également été l'occasion pour Emmanuel Macron d'évoquer le grand conflit qui secoue la région chez le voisin soudanais. Guerre civile débutée en 2023, qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et près de 11 millions de déplacés selon les Nations Unies. Le président français a donc profité de sa présence dans la zone pour lancer un appel aux parties belligérantes, appel à déposer les armes. On écoute le président français.
Nous avons aussi évoqué la situation au Soudan, conflit pour lequel la France avait réuni une conférence de premier plan en avril à Paris. Plus d'un an et demi après le début de la guerre civile, je veux ici redire que nous appelons les parties prenantes à déposer des armes et à tous les acteurs régionaux qui peuvent jouer un rôle de le faire de façon positive dans l'intérêt de la population qui a trop souffert. Le seul processus qui peut exister au Soudan, c'est celui du cessez-le-feu, de la négociation et de redonner toute sa place à la société civile qui a été si admirable dans la révolution qu'elle avait su conduire, dans le respect de celle-ci. Et il faut bien le dire, qui n'a cédé à aucune forme d'irresponsabilité qu'à peu près toutes les parties prenantes et belligérantes sur le terrain l'ont fait subir. Et je pense à la société civile soudanaise et en particulier à ces femmes remarquables et cette jeunesse remarquable qui avait mené la révolution et à laquelle nous devons beaucoup.
Des propos recueillis donc par notre envoyé spécial en Éthiopie, Pierre Firsion. Cap, sabre et bâton, nouvel attribut du président tchadien. Mahamat Idriss Déby Itno a officiellement revêtu hier les attributs du maréchal lors d'une cérémonie à N'Djamena. Deuxième personnalité de l'histoire du pays à atteindre ce grade après son père, à une semaine des élections locales et législatives qui mettront fin à la période de transition, le chef de l'État a promis de débarrasser le pays de ses tares dans un discours. RFI, les 3h37 en temps universel, 4h37 à Brazzaville, la capitale congolaise qui a accueilli hier le président de la RDC voisine, Félix Tshisekedi. S'est longuement entretenu avec son homologue Denissous Gueso. Au centre des discussions, les grands dossiers régionaux, selon Kinshasa, une semaine après l'échec de la tripartite de Luanda qui devait poser les bases d'un accord entre RDC et Rwanda concernant le conflit dans les régions congolaises du Nord Kivu et de l'Ituri. Un processus de paix qui semble avoir du plomb dans l'aile, alors que vendredi, le président Tshisekedi a de nouveau rappelé son refus catégorique de tout dialogue direct avec les rebelles du M23, considérés comme terroristes par les autorités congolaises. Or, Kigali persiste et signe, elle conditionne tout accord à l'ouverture de ses pourparlers avec la milice qu'elle soutient de manière officieuse, une impasse qui reflète donc la complexité des tensions dans l'est de la RDC. Explication depuis Kinshasa, Patient Ligodi.
Le M23, par la voix de son chef politique, Bertrand Bisimwa, persiste à demander un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Le mouvement affirme vouloir aborder les causes profondes du conflit, rejetant même catégoriquement toute intégration de ses revendications dans le cadre du processus de Nairobi qui rassemble divers groupes armés locaux et étrangers opérant en RDC. Pour le M23, un tel forum diluerait ses revendications spécifiques. Bertrand Bisimwa va plus loin, il souligne, je cite, « Ce n'est pas aux groupes armés de gérer ces questions, mais au gouvernement et refuse également l'éventualité de négociations qui se limiteraient à des arrangements sur des postes ou des grades. Kinshasa, de son côté, maintient une position ferme. Pas question d'accepter un dialogue direct avec le groupe rebelle. Il n'est qu'un instrument au service du Rwanda. De son côté, la communauté internationale, par le biais du Conseil de sécurité des Nations Unies, exige la démobilisation immédiate et définitive de tous les membres de groupes armés et appelle à la reprise des pourparlers dans le cadre du sommet tripartite de Luanda entre la RDC, le Rwanda et les facilitateurs angolais. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Et alors que les négociations patinent, les combats continuent dans le territoire du Lubero, situé dans la région du Nord Kivu. L'armée congolaise, appuyée par ses supplétifs Fazalendo, revendique la reconquête des villages de Kanyabi et Mambasa, à plus de 150 km au nord de Goma, sur la RN2. D'autres affrontements ont été enregistrés à Kamandijit et Lac, dans la même zone. Des accrochages ont également eu lieu un peu plus loin, dans le territoire de Massissi et dans le Waglikale, selon des sources concordantes et la société civile. La République démocratique du Congo Congo qui va devoir lutter pour sortir de la pauvreté, tout comme le reste des 26 pays les moins aisés au monde. C'est la conclusion d'un récent rapport de la Banque mondiale qui rappelle que 22 de ces pays les plus pauvres du globe sont situés en Afrique subsaharienne. Car si depuis l'an 2000, 39 États à faible revenu ont rejoint le club des pays à revenus intermédiaires, dont le Kenya, pour ceux toujours à la traîne, les difficultés s'accumulent avec les années. Explication signée Claire Fage.
Avec une croissance en dessous de 0,1% par habitant et par an, ces 26 pays sont 30% plus pauvres que leurs prédécesseurs ne l'étaient en l'an 2000 pour des raisons multiples, explique Philippe Kenworthy, économiste senior à la Banque mondiale.
Dans certains cas, c'est à cause des conflits. Dans d'autres cas, à cause d'une crise de la dette, parce que les pays voisins traversent des temps difficiles et qu'il y a peu d'opportunités de commerce régional. Dans d'autres cas, c'est l'instabilité politique qui éloigne les investisseurs.
Outre les remèdes internes comme le retour à la stabilité, une meilleure productivité agricole, un cadre fiscal et monétaire plus robuste pour affronter les chocs, en particulier climatiques, le soutien de la communauté internationale est plus urgent que jamais, estime l'économiste.
Si l'on procède à des allègements de dettes insuffisants ou trop lents, on repousse le problème de plusieurs années. On en reste au même point et tout le monde est perdant. La communauté internationale doit allouer suffisamment de financements préférentiels vers ces pays pour maximiser leurs chances de sortir de la pauvreté et d'investir dans une croissance verte et résiliente pour le futur.
Malheureusement, si le fonds d'aide IDA de la Banque mondiale a été reconstitué à un niveau record, l'institution financière internationale en empruntera les trois quarts sur les marchés financiers, avec à la clé des taux d'intérêt qui risquent de dissuader les pays les plus pauvres d'y recourir.
Claire Fage, c'est une richesse difficile à évaluer, celle du patrimoine. Quelle valeur donner à ces bâtiments ou encore ces cultures qui définissent l'identité d'un pays? Comment d'ailleurs décider ce qui participe du patrimoine d'une nation? Des enjeux autour de biens matériels et immatériels culturels qui sont immenses. Et pendant trois jours, cette semaine, Madagascar, une série de rencontres, débats et réflexions scientifiques autour de cette question patrimoniale était organisée par le département Histoire de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antananarivo. Sarah Teto a pu rencontrer les organisatrices.
Dans les salles, assistant aux débats, des jeunes et des moins jeunes, tous animés par le même désir de mieux cerner les enjeux de ce que les scientifiques nomment patrimonialisation. Avec pédagogie, Eliandre Radzonarson, enseignante-chercheuse et directrice du département d'histoire, explique.
Le patrimoine, c'est quelque chose qui est créé, qui a été hérité des ancêtres et qu'on va laisser aux générations futures. Et le soin qu'on apporte à ce processus-là, c'est la patrimonialisation.
Cependant, tout n'est pas à patrimonialiser, avertit Bakra Swarfetch, chercheuse et spécialiste du patrimoine malgache.
Ce qu'il faut patrimonialiser, c'est des biens qui sont censés être transmis à la génération future parce qu'ils sont dotés d'une valeur qui entre dans l'identité de la communauté. Une identité où la population doit éprouver une certaine fierté.
Sur cette île, à la croisée de multiples civilisations et influences, la démarche de patrimonialisation revêt donc un caractère particulier, souligne la chercheuse.
L'enjeu, c'est créer une certaine cohésion entre les peuples, d'autant plus que c'est un pays avec une diversité culturelle tellement immense que ce que nous cherchons, c'est de bien relever ce qui nous tient en commun.
Aujourd'hui, la communauté scientifique malgache exprime le désir que les politiques culturelles publiques prêtent plus d'attention à la conservation et à la valorisation du patrimoine existant plutôt qu'à sa personnalisation, voire à son travestissement. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et illustration des enjeux géopolitiques et historiques autour du patrimoine, la suspension de la vente réalisée en France en début de week-end, celle de la récade du roi Béhanzin, sorte de sceptre traditionnel en bois ayant appartenu à un ancien souverain du royaume du Dahomey, offert aux troupes coloniales à la fin du 19e siècle, pillé selon les versions. Cet objet était au catalogue d'une vente aux enchères vendredi à Paris, mais il en a été retiré à la dernière minute à la demande selon des informations d'RFI des autorités béninoises.
Selon des sources officielles, c'est bien la présidence béninoise qui a réclamé avec succès que la récade soit retirée des enchères parisiennes. La vente de l'attribut royal était annoncée ce vendredi après-midi à l'hôtel Drouot, mais l'événement suscitait des remous. Le matin même, ce vendredi sur RFI, Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation d'Art Zinsou, s'en émeut. Car selon elle, la récade en question n'a pas été offerte aux troupes coloniales, mais bien pillée. et devrait donc être restitué au Bénin au même titre qu'une vingtaine d'œuvres rendues par la France en 2021. Juste avant la vente, la présidence béninoise réagit. Son chargé de mission sollicite en urgence l'appui du service des musées de France. Dans la foulée, la maison de vente Millon reçoit un appel du ministère français de la Culture lui demandant de retirer la récate de la vente. Ils n'ont pas autorité pour le faire, mais c'est de la diplomatie, commente un cadre du cabinet Millon. C'est la dernière vente de l'année, nous n'avons pas voulu aller au bras de fer, explique-t-il. Avec l'accord du propriétaire, dont l'identité n'est pas publique, l'objet est donc retiré du catalogue, mais il est toujours à vendre, précise cette même source. Le Bénin pourrait ainsi décider de se porter acquéreur ou de négocier avec Paris un mécanisme de restitution.
Florence Maurice, et puis un tout petit mot de sport avec la suite des qualifications pour le championnat d'Afrique des Nations 2025. Match nul hier entre la RDC et le Tchad, sur le score d'un but partout, la RDC qui n'avait que deux joueurs sur le banc des remplacements en raison de problèmes administratifs à suivre aujourd'hui, notamment la Côte d'Ivoire qui défie le Burkina Faso. RFI, il est 3h45 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI.
Et Afrique Matin, ça continue jusqu'à 5h avec d'abord un passage au Maroc où le partage de la route n'est pas un long fleuve tranquille. Dans les grandes métropoles du Royaume, taxis et chauffeurs de VTC se regardent en chien de faïence pendant que l'État refuse toujours de réguler. Reportage à suivre dans un instant. Le livre international avec Sylvie Noël se penche lui sur la reine des organisations internationales, les Nations Unies, souvent jugées poussiéreuses, dépassées même. Comment la revitaliser, c'est le sujet de l'ouvrage du jour. Et puis ce sont les Doux, Clapotis de l'eau qui nous accompagneront vers la fin de cette tranche. Rendez-vous avec Chivaï, la multiple artiste néo-calédonienne qui expose à la Biennale d'art contemporaine de Lyon. Voilà pour le programme. Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 4h46 à Rabat. Peut-être l'heure du réveil pour de nombreux professionnels de la route dans les grandes métropoles marocaines. Le secteur du transport urbain de plus en plus concurrentiel de Marrakech à Rabat, en passant par Casablanca où les chauffeurs privés viennent désormais concurrencer les taxis. Il y a 6 ans, Uber jetait pourtant l'éponge, mais d'autres applications ont repris le flambeau, à l'image de Karim ou de InDrive. Mais le vide juridique qui entoure leur activité est source de tensions sur les bitumes marocains. Reportage à Casablanca, François Oum Ferkataji.
Mustapha parcourt les artères de Casablanca depuis 5 heures du matin dans son petit taxi rouge au siège défraîchi. Il est chauffeur depuis plus de 10 ans. Selon lui, le métier devient de plus en plus pénible. Les bouchons kazaouis lui rendent le quotidien difficile et l'essor des applications de transport l'inquiète. Pour lui, ces applications devraient être réservées uniquement aux taxis rouges.
Le problème, c'est que des véhicules personnels arrivent sur ce marché et les chauffeurs de taxis sont obligés de partager leur clientèle avec ces nouveaux acteurs. Ça réduit notre pouvoir d'achat et ça nous fatigue au quotidien. Il faut réguler le système de transport urbain. Et c'est l'État qui doit le faire.
Sur la toile, les vidéos se multiplient, montrant des chauffeurs de taxi lancer des attaques verbales ou physiques contre les conducteurs utilisant ces applications avec leur véhicule personnel et accusés de ne pas respecter la loi. Le mois dernier, la presse marocaine a largement relayé l'histoire d'un ressortissant russe qui s'est interposé pour séparer un chauffeur de taxi et un chauffeur de VTC en pleine bagarre. Le chauffeur de taxi a été mis aux arrêts. À Casablanca, Youssef, conducteur pour une application, âgé de 65 ans, a appris à éviter ses collègues taxis.
Ça fait 2 ans que je fais ce travail-là, ou ce service-là. Au début, on avait beaucoup de problèmes. Mais j'évite les chauffeurs, j'évite la police. J'essaie d'éviter.
Les entreprises du digital qui opèrent au Maroc n'ont toujours pas réussi à convaincre les autorités de légiférer pour permettre aux chauffeurs privés de travailler légalement. C'est ainsi qu'Hicham, chauffeur InDrive à Marrakech, s'est fait retirer son permis.
J'étais dénoncé par les taxis. Eux, ils ne voulaient pas que ces applications travaillent ici au Maroc. J'étais arrêté, j'étais choqué. Bien sûr, les clients aussi ont été choqués par ce geste-là. Ils m'ont pris mon permis pour 3 mois. C'était pas facile pour moi parce que c'est ma seule source. Bien sûr, la voiture a été confisquée. Et j'ai payé une pénalité.
Pour éviter les problèmes, les clients des applications sont invités à s'asseoir à l'avant et régler la course le plus discrètement possible. Situation paradoxale, bien que les chauffeurs de VTC travaillent toujours dans l'illégalité, certaines applications comme l'américaine InDrive affichent ses publicités dans la rue. François Imferkataji, Casablanca, RFI.
Un reportage à retrouver bien sûr sur l'ensemble des applications de podcast et sur le site RFI.fr.
RFI, toute l'actualité, Pierre Boudias.
Dimanche 22 décembre 2024, à la une de l'actualité internationale en Allemagne, l'hommage hier aux victimes de l'attaque à la voiture Bélier sur le marché de Magdebourg. Le dernier bilan provisoire fait état de 5 morts et 200 blessés. Environ 2000 personnes se sont réunies, dont le chef de l'État, le chancelier. Les motivations de l'auteur d'origine saoudienne sont encore confuses. Il avait évolué ces dernières années sur les réseaux sociaux vers un discours radical, matiné de complotisme, ne cachant pas ses sympathies pour les thèses de l'extrême droite contre l'immigration musulmane. Un accident de car suivi d'un incendie que le président Lula a qualifié de terrible tragédie a fait au moins 38 morts samedi dans le sud-est du Brésil. C'est le pire accident routier dans le pays depuis 2007, selon les données de la police citées par la presse brésilienne. Le pape François condamne la cruauté d'une frappe aérienne israélienne. Elle a tué 7 enfants à Gaza, selon la défense civile du territoire palestinien. Israël dénonce une mise à l'index et accuse le pape de deux poids, deux mesures. Au Yémen, l'armée américaine a annoncé hier avoir mené des frappes contre des installations militaires des Houthis dans la capitale Sanaa, où des explosions ont été entendues. Cette attaque survient quelques heures après que les rebelles Houthis ont revendiqué le tir d'un missile sur le centre d'Israël, tir qui a fait 16 blessés légers. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme avoir vu récemment le directeur de la CIA William Burns en Ukraine. Ce type de rencontre est rarement dévoilé depuis l'invasion déclenchée par la Russie. Puis Volodymyr Zelensky félicite le boxeur ukrainien Alexander Usyk. 7 mois après leur premier affrontement, ce dernier a de nouveau battu au poids le britannique Tyson Fury à Riyad. Le livre international. Maintenant, il est ce dimanche au chevet d'une institution qui fêtera l'année prochaine ses 80 bougies. Les Nations Unies, créées le 25 juin 1945 à San Francisco. Un âge canonique pour une institution qui peut paraître à bout de souffle, déstabilisée par l'état du monde avec les guerres en Ukraine et à Gaza notamment. Des conflits qui ont mis en lumière l'impuissance de l'ONU à faire respecter ses propres règles dans le défi de la paix, remodeler les organisations internationales. Publié aux éditions Armand Collin, Anne-Cécile Robert, directrice adjointe du Monde Diplomatique, analyse justement le dangereux défi auquel sont confrontées ces organisations internationales ainsi que l'enjeu du renouvellement de ces dernières afin de préserver la paix mondiale. Anne-Cécile Robert qui répond aux questions de Sylvie Noël.
Anne-Cécile Robert, bonjour.
Bonjour.
Dans Le défi de la paix, vous écrivez que le martyre des populations de Gaza engage le pronostic vital de l'organisation internationale. Pourtant, dans le même temps, vous développez l'idée qu'il faut remodeler ces mêmes organisations internationales face au chaos qui déstabilise actuellement l'ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale. Vous pensez réellement que les organisations internationales telles que l'ONU, si décriées ces derniers temps pour son impuissance, ont encore un rôle à jouer ?
Les organisations internationales sont sous le feu de la critique parce que sur un certain nombre de crises très importantes, comme ce qui se passe à Gaza, ou on pourrait même évoquer à nouveau l'Ukraine ou la Syrie, elles se révèlent impuissantes. Mais il ne faut pas se tromper de coupable, tant sur Gaza que sur l'Ukraine. L'ONU a travaillé, fait des choses. Par exemple, le peu d'aide humanitaire qui rentre à Gaza, c'est l'ONU, et y compris en Ukraine, qui vaccine les enfants, les petits Palestiniens, c'est l'Organisation mondiale de la santé.
Alors, mais en creux, la critique qu'on fera à l'ONU, c'est que si elle développe ses activités humanitaires, c'est aussi parce qu'elle n'a pas réussi à ramener la paix.
Alors c'est vrai, c'est tout à fait vrai, à ceci près que dans des tas d'autres crises, en Afrique par exemple, il y a quelques jours, le Conseil de sécurité de l'ONU a par exemple voté une résolution pour des sanctions contre les chebabs somaliens. Elle travaille. On note, parce que les échecs sont spectaculaires, mais dans beaucoup de situations, l'ONU fonctionne, ses casques bleus sont sur le terrain, assurent des tas de missions. Donc il faut se rappeler que derrière certains échecs spectaculaires, il y a un vrai travail de paix et que par ailleurs, les échecs sont moins dus à l'ONU qu'à certains États qui se comportent très mal.
Alors effectivement, vous dites l'exacerbation décomplexée des logiques de puissance que l'on observe actuellement est inédite depuis 1945. Vous citez même Hassan Salameh qui parle d'une dérégulation du recours à la force. Qu'entend-il ?
C'est le problème majeur. L'une des fonctions de l'ONU est de fixer un cadre pour limiter la guerre, voire l'empêcher. Et peu ou prou, même s'il y a toujours eu des guerres sur la planète, ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu, depuis 1945, de conflits majeurs, notamment entre les grandes puissances. Et malheureusement, depuis quelques années, on s'aperçoit que les grandes puissances qui devraient montrer l'exemple et stabiliser le système mondial sont en fait elles-mêmes factrices de troubles parce qu'elles ont relégitimé un usage de la guerre d'une manière brutale si on pense à la Russie en Ukraine, où elle le cautionne, ce recours à la force, à la guerre, comme les États-Unis en Irak en 2003, ou en empêchant toute sanction contre le régime israélien qui commet aujourd'hui des crimes de guerre à Gaza et aussi au Liban.
Alors justement, la grande question, quelles peuvent être les perspectives pour faire évoluer notamment l'ONU? Vous évoquez trois scénarios, l'effondrement, le pourrissement ou le renouveau, et dans ce cas, deux maîtres mots, représentativité et efficacité.
C'est vrai qu'il y a un risque aujourd'hui d'effondrement du système multilatéral, et l'un des facteurs d'incertitude, c'est l'élection de Donald Trump, qui n'est pas, c'est un secret pour personne, un ami de l'ONU à laquelle il menace de couper les vivres. Mais vous avez raison de souligner que l'une des clés, ce sera sa représentativité, parce qu'effectivement, le système onusien est très marqué par la Seconde Guerre mondiale, avec un rôle de ceux qui étaient les grands vainqueurs face à l'Allemagne nazie et au Japon. Mais aujourd'hui, cela ne correspond plus aux équilibres de la planète et il faut ouvrir le système onusien, notamment le Conseil de sécurité.
Et ce qui nécessitera une révision de la charte.
Alors là, il faudrait une révision de la charte, c'est vrai. Mais on peut aussi avoir de l'espoir sur ce terrain, puisque pendant très longtemps, tout était bloqué. Personne, et en particulier pas les cinq membres permanents, ne voulaient ouvrir le Conseil de sécurité. Et là, ça y est, y compris les Américains, admettent qu'il va falloir ouvrir des postes de membres permanents. Et ils ont clairement dit que deux pays africains pourraient bénéficier de sièges de membres permanents.
Merci Anne-Cécile Robert.
Merci.
Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales, est à retrouver aux éditions Armand Collin. RFI, il est 3h56 en temps universel. Écoutons les parler, les cours d'eau avant de nous quitter. Écoutez la voix des fleuves plus précisément, puisque c'est le thème choisi par la Biennale d'art contemporain de Lyon. Cette année, 17e édition, qui foisonne de propositions de 78 artistes français et internationaux, comme Chivaille, la multiple. Cette jeune artiste nous plonge dans une œuvre immersive au fil de l'eau. Reportage José Marigno.
Alexia Fabre, directrice des Beaux-Arts de Paris, est la commissaire invitée de cette 17e édition de la Biennale d'art contemporain de Lyon. En proposant le thème « Les voies des fleuves », la maîtresse de cérémonie entend célébrer l'accueil de l'autre.
C'est une sorte de tonalité que l'on propose aux artistes, c'est le sujet des relations à l'autre, des relations à notre histoire, mais aussi à celle des autres. Chaque artiste a interprété ce sujet en y amenant le cœur de l'œuvre de chacun. Tous les artistes ont eu à cœur de proposer des espaces de rencontre, de rassemblement, pour que le public partage une expérience.
Durant notre visite, on ne peut pas dire que tous les créateurs ont respecté ces consignes, à l'exception de Chivaille, la multiple. C'est comme ça que cet artiste pluridisciplinaire de 31 ans se définit. Née en Nouvelle-Calédonie, passée par les Beaux-Arts de Mexico, elle crée une œuvre autour des fleuves et c'est dans un bruit d'eau qu'on entame son parcours.
On entend l'eau du fleuve Congo, du fleuve Douro, du fleuve Sénégal. Mon travail, c'est de traverser les différents fleuves dans le monde pour comprendre cette grande entité fleuve qui est à la fois politique, économique, spirituelle et poétique.
Le tout évoque l'effacement des frontières géographiques. Dans cette salle aux couleurs flashy, les murs sont recouverts de ces photomontages qui flirtent avec le divin et les rêves.
Il y a le cycle de la lune, il y a beaucoup de travail du coup de composition emojique que je fais sur mon téléphone, qui sont en fait des tambours sacrés, chacun ayant sa personnalité et sa vibration. Au milieu, on a une fiole, il y a des gouttes des différents fleuves que j'ai traversé. On a l'Iba qui est la représentation de cette entité fleuve. Et aussi on a des images des différentes offrandes que j'ai effectuées pour ces différents fleuves.
Se concentrant sur un conte initiatique, sa création la guide donc sur les bords des fleuves du monde où elle récolte des calebasses porteuses de tradition.
La calebasse, j'ai été initiée par Kaliman, un maître des traditions bushinengue en Guyane française. Et aujourd'hui je fais partie de ce maillon de la chaîne de savoir-faire. Puisqu'aujourd'hui, c'est à moi de transmettre la puissance, la grandeur qu'a la calebasse et l'importance aussi des fleuves, puisque chacune des traversées m'apprend quelque chose et finalement me transforme moi-même en fleuve à bord de ma calebasse.
Traversant le temps et l'espace, l'œuvre de cette jeune artiste mêle les mondes et les univers. Ses nombreux voyages font de Shiva et la multiple une entité plurielle qui, à travers le spirituel, cherche à révéler le réel.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'Afrique Midi. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, RFI Matin. Coup de continu.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Justine Massika Biamba, formidable militante congolaise qui publie « Femmes debout face à la guerre », cofondatrice de l'ONG « La synergie des femmes pour les victimes des violences sexuelles », son combat est celui des femmes violées en République démocratique du Congo.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure, à 15h10 TU et en podcast sur RFI.fr.